André Terrier, Le plat d'argent. Chapitre 1. Notre voiture descendait rapidement la rampe de Talloir. Arrivé au vivier, le cocher mit son cheval au pas pour le laisser souffler, de sorte que nous pûmes examiner à loisir le paysage matinal. La route creusée dans le roc courait, blanche, au long du lac d'Annecy, en doublant la pointe où se dresse la chapelle abandonnée de la Madeleine. À droite, la nappe glauque du lac, que le vent ridait légèrement, s'étendait jusqu'à la bordure des vignobles qui forment la première assise des montagnes d'Entreverne. De longs nuages errants, coupant les sommets par le milieu, n'en laissaient voir que la base verdoyante et la cime ensoleillée. Au fond, les bois de sapin de la gorge de Doussat, à demi noyés dans une vapeur bleu foncé, faisaient mieux valoir encore l'azur clair de l'eau sur laquelle la presqu'île d'Angon découpait les dentelures de ses peupliers. À notre gauche, une paroi de rochers surplombait au-dessus de la route, et parmi les broussailles qui en tapissaient la crête, on distinguait un sentier de chèvres serpentant sur la corniche à une trentaine de mètres. « C'est ici, dis-je à mon compagnon, qu'à l'époque où Henri IV envahit la Savoie, il arriva malheur aux équipages de M. de Lesdiguières. Il faisait nuit noire, les mulets qui portaient la vaisselle plate du connétable perdirent pied et déringolèrent dans le lac. Toute la massive argenterie du duc est encore aujourd'hui au fond de l'eau. Notre cocher, qui jusque-là sifflait insoucieusement à plein gosier, devint tout à coup silencieux et prêta l'oreille à la conversation. » Un gentil garçon que ce Jacques sonnera, 25 ans, svelte, large d'épaules, avec de beaux yeux limpides, intelligents, et une fine moustache blonde, estompant ses lèvres rieuses. Il nous avait séduits par sa bonne mine, son entrain, sa gaieté un peu narquoise, et nous l'avions choisi pour nous voiturer, ou plutôt, c'était lui qui nous avait choisis. En nous entendant demander à quelle distance se trouvait le village d'Angon, il avait offert ses services avec une si engageante bonne humeur qu'il avait triomphé de nos hésitations. Pourquoi allions-nous à Angon au lieu de filer droit sur Genève, comme nous l'avions projeté? Tout simplement par un de ces caprices que les vrais touristes comprendront et qui est un des charmes du voyage. Au coin d'une des rues d'Annecy, nous étions tombés sur un cadre de photographie représentant des facsimilés, des guerres et de plateaux de cuivre curieusement travaillés, et nous avions lu au bas du cartel « Toineaux, artiste ciseleur sur cuivre, en Angon, près Talloir ». L'envie nous avait pris de posséder quelques échantillons de l'industrie locale, et Jacques Sonnerat aidant, nous étions partis. Le cheval de Jacques marchait bien. 5 minutes après avoir dépassé la Madeleine, nous entrions à Angon. Un village, ou plutôt un hameau, composé de 20 maisons, nichées dans un fouillis de noyers et chevauchant un ruisseau qui se jette dans le lac. « Nous voici rendus !» s'exclama Jacques, en sautant à terre pour prendre son cheval par la bride et le soutenir dans la descente du chemin raviné. « Vous savez, ou vous ne savez point, messieurs, qu'il n'y a pas d'auberge à Angon, mais je vais tout de même vous conduire chez le père Toineaux, et sa demoiselle trouvera bien de quoi vous confectionner un déjeuner. » Il s'était arrêté devant une rustique demeure, au toit en auvent, composée d'un seul étage surélevé, au-dessus d'un sous-sol, auquel on accédait par un raide escalier de pierre. Dans le massif de maçonnerie de l'escalier, une porte cintrée ouvrait sur une sorte de cave, éclairée par une lucarne donnant sur le jardin. Dans le demi-jour de ce cellier, on distinguait des futailles, un étau, des bancs, un établi chargé d'outils et de feuilles de cuivre. La cave servait d'atelier à l'artiste ciseleur. Jacques Sonnerat était entré le premier. À peine eut-il franchi le seuil qu'il fut accueilli par un grognement peu hospitalier. « Te voilà, feignant, tu viens encore traîner tes guêtres par ici ?»« Bonjour, père Toineaux, » répliqua le cocher, le sourire aux lèvres. « Plaignez-vous, je vous amène de la pratique. Voilà des messieurs qui souhaiteraient voir vos cuivres. »« Ah, c'est différent. Je vous salue bien, messieurs. Passez de ce côté si ça ne vous dérange pas. » Il nous emmena près de la fenêtre et nous distinguâmes alors un petit homme trapu, en bras de chemise, vêtu d'un pantalon de coutil et portant avec une certaine solennité une tête drôlement construite. Mâchoire saillante, yeux luisants et enfoncés sous des sourcils broussailleux, front têtu et un peu fuyant. « Vous savez, continua-t-il, je ne travaille que sur commande et je n'ai pas grand-chose à vous montrer. » En même temps, il fouillait dans un coin et tirait d'un paquet de chiffons une buire de forme orientale entièrement couverte de ciselures d'un dessin fort original. « Voici ce que je puis faire, et voici, ajouta-t-il en déroulant des photographies, les modèles que vous pouvez choisir. » Notre choix se fixa sur un plateau et une buire, puis il nous fit son prix, qui était relativement modeste. Le seul point qui donna matière à discussion fut le délai stipulé pour la livraison. Le bonhomme exigeait un mois et n'en démordait pas. Tandis que mon compagnon s'efforçait d'obtenir un délai moins long, j'avisais sur un tonneau des morceaux de minerai où scintillaient des paillettes de métal. « Est-ce du minerai de cuivre ? » demandai-je au ciseleur. Les yeux de M. Toinoz eurent des scintillements pareils à ceux des parcelles métalliques semées dans ces cailloux. « Il y a du cuivre, répondit-il avec un hochement de tête mystérieux. Mais il y a aussi autre chose, de l'or, monsieur, du bel et bon or de la montagne. « Comment ? On trouve de l'or ici ? » m'écriai-je. « Il y en a là-haut, reprit-il en levant le doigt d'un air illuminé. Où ? On ne sait pas au juste. La montagne garde son secret et cache son or ni plus ni moins qu'à Navarre. Seulement, à la fonte des neiges, le torrent roule des débris de roches dans les gorges d'Angon, et ces débris-là contiennent de l'or. Moi seul, je sais les reconnaître. Je les devine à la forme et au toucher, et je les ramasse. C'est la dot de ma fille Philomène. » « Philo sera riche un jour, ajouta-t-il en lançant un regard méprisant du côté de Jacques Sonnerat, et je ne la marierai qu'à un garçon qui aura de quoi. » Le jeune cocher, sans trop s'émouvoir de cette insinuation qui avait tout l'air d'être envoyée à son adresse, se contentait de secouer les épaules et de sourire avec une lueur gouailleuse dans l'œil. Il sortit du cellier sous prétexte de commander le déjeuner à la bourgeoise et nous allâmes, en attendant, visiter le hameau. Laissant mon ami en contemplation devant la cascade, je suivis le ruisseau qui sautillait sous les noyers. Je gagnai ainsi en quelques minutes la lisière d'un pré qu'on venait de faucher et qu'une haie de coudrier, enchevêtrée de vignes sauvages, séparait du chemin. De l'autre côté de cette muraille de verdure, j'entendis deux voix jeunes et alertes qui dialoguaient à l'ombre des pommiers et, en me haussant sur le talus, je pus apercevoir les deux causeurs, une fille de 20 ans environ, occupé à retourner l'herbe fauchée, et Jacques Sonnerat en personne. Au milieu des jonchées de foin odorant, ces deux jeunes gens formaient un couple vraiment fait pour éjouir les yeux. La jeune fille avait le buste serré dans un de ces casaquins de toile claire, à trois larges plis dans le dos, qu'on nomme une taille dans le pays. La jupe, de même étoffe, collée aux hanches, et tombée jusqu'aux pieds chaussée de gros brodequins, les manches retroussées au-dessus du coude, montraient de beaux bras hâlés, appuyés sur le râteau. Sous le chapeau de paille, un visage frais s'arrondissait, éclairé par de vifs yeux bleus, sur lesquels se jouaient des mèches de cheveux frisottants. Jacques Sonnerat, le pantalon enfoncé dans ses bottes, la veste sur l'épaule, se profilait vigoureusement en plein soleil et mâchonnait un brin d'herbe, tout en dévorant du regard son interlocutrice. « Je suis content de vous revoir, Philomène, » disait-il de sa voix la plus caressante. « Vous devez être étonnée, et un peu contente aussi, pas vrai, que je sois revenue si tôt par chez vous. »« Pour sûr, Jacques, je croyais que vous aviez dessein de passer la semaine à Annecy. » C'était mon plan, en effet, mais quand j'ai entendu ces deux messieurs parler d'Angon, j'ai si bien manœuvré que je les ai décidés à monter dans ma voiture, et nous avons marché rondement, je vous en réponds. On aurait dit que le blond se doutait que j'allais chez vous, Philo, comme récompense si vous me laissiez vous embrasser un brin. Non, Jacques, tenez-vous tranquille, les gens peuvent nous voir et tout redire au père. Il n'est toujours pas consentant, vous savez, et nos affaires ne marchent pas aussi bien que votre cheval. Bah, le père Toinoz est occupé avec ses pratiques. Un petit baiser sur la joue, ce sera tout fait. Nenny, quand nous serons mariés, vous m'embrasserez tant que vous voudrez, mais jusque-là, rien. C'est ce que nous allons voir, ripostait l'entreprenant Jacques Sonnerat, en passant lestement le bras autour de la taille de son ami. Pas si lestement, néanmoins, qu'elle n'eut le temps de se jeter de côté en le menaçant de son râteau. Peu effrayé de cette menace et excité par le sourire de défi qui courait sur les lèvres de Philomène, Jacques allait renouveler sa tentative quand il fut arrêté net par une voix rude qui criait à l'autre bout du pré. « Attends un peu, drôle, je vais t'aider, moi, à coups de fourche. Et toi, Philo, au lieu de te laisser affronter par ce coureur-là, tu ferais mieux d'aller chez nous, où la besogne ne manque pas. Je t'ai défendu de causer avec lui. Décampe, et va mettre le couvert dans la chambre haute. » La jeune fille jeta son râteau et, sans se presser, avec un mouvement d'épaule qui marquait une médiocre disposition à l'obéissance passive, elle s'éloigna dans la direction de la maison. Les deux hommes restèrent en présence. Jacques Sonnera, sans se déconcerter, mâchonnait de nouveau un brin d'herbe et s'avançait nonchalamment vers l'artiste ciseleur. « Comme ça, dit-il, père Toinose, vous êtes toujours aussi peu raisonnable. Vous ne voulez pas me donner votre Philomène. Je l'aime pourtant bien et nous ferions une belle paire ensemble. » « Aime-la ou ne l'aime pas, ça m'est égal, » grogna Toinose. « Tu connais mes idées. Je veux un gendre qui m'aide à exploiter mon minerai. Pour ça, il faut de l'argent et de l'industrie. Or, toi, mon garçon, tu ne sais rien que conduire ton cheval et pêcher dans le lac. Ça ne suffit pas et tu n'es point mon homme. » « Père Toinose, vous avez tort. Je ne suis pas plus maladroit qu'un autre et, quant à de l'argent, j'ai mon oncle, le curé de Rovani, qui est à l'aise et qui me laissera son héritage. » « Pfff !» siffla dédaigneusement le ciseleur. « Ton oncle de Rovani est vert comme un mou et ne veut pas mourir de sitôt. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'il soit défunt. Le minerai est là, qui presse, et je veux un gendre qui se mette tout de suite dans l'affaire jusqu'au cou. Tu n'es pas mon homme. » « C'est votre dernier mot, monsieur Toinose. »« C'est mon dernier mot, Jacques Sonnera. » »« Eh bien, qui vivra, verra, » répliqua le cocher avec son éternel sourire. « En attendant, je m'en vais déjeuner. » Pendant ce déjeuner servi par Philomène, que Sonnera, en dépit de la défense du ciseleur, reluquait sournoisement tout en mettant les morceaux doubles, il fut convenu que nous irions nous installer à Talloire, dont nous ferions notre centre d'excursion jusqu'au moment où Toinose pourrait nous livrer ses cuivres. Nous reprîmes donc vers le tantôt le chemin de l'auberge de l'abbaye, et quand, sur le seuil de notre nouveau gîte, nous eûmes réglé le compte de Sonnera, celui-ci me tira à l'écart. « Dites-moi, monsieur, murmura-t-il confidentiellement, est-ce que c'est la vraie vérité, cette histoire des mulets tombés dans le lac avec leur charge d'argenterie près de la Madeleine ?»« C'est absolument vrai, mon brave. Et vous pensez que la vaisselle d'argent est toujours au fond de l'eau ?»« Dame, c'est fort possible. Toutefois, comme on a construit une route neuve au pied des rochers, il y a apparence que l'argenterie de M. de Lesdiguières est aujourd'hui couverte par 30 mètres de remblai. » Ah ! Fit-il un peu désappointé. Tout de même, avec de la persévérance et de l'adresse, on arriverait peut-être à repêcher le magot. Croyez-vous, monsieur ? Auriez-vous l'intention de plonger au fond du lac pour y chercher le trésor, Jacques ? Le cocher se mit à rire. « On ne peut pas savoir, répondit-il plaisamment, votre histoire s'accorde avec un vieux comte qui court dans le pays. Par les nuits de pleine lune, on rencontre, dit-on, près de la Madeleine, un fantôme à jambes de bois. Et si on a le courage de le suivre, il vous conduit au coup de minuit vers une balme, une grotte, où il y a un trésor. C'est peut-être bien l'argenterie de votre ancien troupier, ajouta-t-il en grimpant sur son siège. Faudra voir. Hublon ! Bien le bonsoir, monsieur. » Et là-dessus, il prit congé de nous. Chapitre 2. À quelques jours de là, l'ouvrage ayant chômé, Jacques Sonnera remisa sa voiture et grimpa de son pied léger jusqu'à Rovani afin de faire visite à son oncle. Il trouva le curé dans son jardin, occupé à dire son bréviaire près du rucher, tandis que les abeilles affairées accompagnaient de leur bourdonnement les paroles latines marmottées à mi-voix. Le vieux prêtre avait coutume de fêter l'arrivée de son neveu. Dès qu'il le vit apparaître au bout de la charmille, il héla sa gouvernante Étiennette et lui commanda d'aller quérir en cave une bouteille de vin blanc. Mais quand, après avoir vidé son verre, Jacques eut confessé mystérieusement à son oncle l'objet de sa visite, la figure poupine du brave ecclésiastique se rembrunit soudain et, de loin, la curieuse gouvernante, qui épiait l'oncle et le neveu, vit son maître répondre par des gestes de dénégation à la requête que semblait formuler patelinement Jacques Sonnera. La discussion dura longtemps. Le prêtre levait ses bras courts en l'air, puis frappait sur son bréviaire du plat de la main. Jacques redoublait de câlinerie et de faconde pour vaincre les résistances de son oncle. Il se montra finalement si persuasif que le curé plia les épaules d'un air résigné et secoua la tête en signe d'acquiescement. Alors Étiennette, de plus en plus intriguée, les vit tous deux s'acheminer vers la salle à manger où elle entendit son maître fureter en soupirant. Après de nouveaux chuchotements, elle aperçut Sonnerat quittant le presbytère, tandis que le curé l'accompagnait jusqu'à la porte de la cour, puis s'en revenait tout songeur, le nez dans son bréviaire. Au retour de cette visite à Rovanie, Jacques passa plusieurs jours à Talloir. Deux ou trois fois dans mes promenades, je l'aperçus rôdant en barque aux environs de la Madeleine. Une fois même, à la nuit close, il me sembla le voir, nu jusqu'à la ceinture, se dresser au bord de son bateau et faire un plongeon dans le lac. « Ah, ça, pensais-je, est-ce que sérieusement, il se serait mis en tête de repêcher l'argenterie de M. de Lesdiguières ?» Une après-midi, il alla trouver le père de Philomène, et voici la conversation qui eut lieu entre eux, telle qu'elle me fut rapportée plus tard par Sonnerat lui-même. « Comment, encore toi ?» lui cria le père Toinoz, occupé à façonner la buire que nous lui avions commandée. « Encore ?» répliqua plaisamment le cocher. « C'est un mot de reproche, monsieur Toinoz, et ce n'est pas gentil de recevoir ainsi un garçon qui vous apporte une bonne nouvelle. »« Quelle bonne nouvelle ?» grommela le ciseleur. « Viens-tu m'annoncer que tu as renoncé à courtiser ma fille ?»« Ah non, pas ça, au contraire. » « Eh bien, alors, tu peux retourner d'où tu viens. »« Minute, comme vous êtes prompt, père Toinoz, vous ne laissez pas seulement aux gens le temps de s'expliquer. Voici ma nouvelle, nous sommes à deux de jeu. Si vous avez découvert une mine d'or, moi j'ai découvert une mine d'argent. La seule différence est que la mienne est plus facile à exploiter que la vôtre. » Au mot d'or et d'argent, le vieux ciseleur avait relevé la tête et ses yeux luisaient, comme ceux d'un chat dans la pénombre d'un cellier. « Qu'est-ce que tu me chantes là ? » demanda-t-il, moitié incrédule et moitié émoustillé. « Il ne s'agit pas de chanson. J'ai mis la main sur un trésor et je viens vous dire, par à deux, si vous consentez à ce que Philo soit ma femme. Prouve-moi d'abord que tu ne te moques pas de moi. Rien de plus facile. Trouvez-vous ce soir, entre 11h et minuit, près de la Madeleine. » J'y serai et je vous mettrai la preuve sous les yeux. » Toinoz le dévisageait d'un air ahuri. « Tu me montreras ton trésor ? » ?»« Je vous en montrerai au moins un échantillon. Ça vous va-t-il ? » ?»« Soit, mais tu sais, je suis un vieux singe et on ne me fait pas prendre des vessies pour des lanternes. » »« Tranquillisez-vous, vous serez satisfait de votre promenade. » À l'heure indiquée, Toinoz cheminait sur la route d'Angon. C'était une belle nuit transparente. Avec la limpide clarté lunaire, une paix profonde tombait sur les montagnes d'en face et sur le lac uni comme un miroir. Le silence n'était troublé que par le trémolo des grillons, par le saut brusque d'une carpe bondissant hors de l'eau ou par le cri d'une sarcelle parmi les joncs de la rive. De la pointe d'Angon à la presqu'île de Dueng, un réseau lumineux courait sur le lac et s'y mouvait, pareil au frétillement d'un millier de poissons aux écailles argentées. Il faisait clair comme en plein jour et, dans cette pacifique lumière, les tourelles du château de Dueng et les toits de tuiles des maisons éparses se détachaient nettement des massifs d'arbres. Au moment où Toinoz atteignit le mur blanc de la Madeleine, il vit soudain une svelte silhouette surgir du fond d'une barque amarrée à la berge. « Est-ce toi, Jacques ? » murmura-t-il en ayant peine à réprimer un léger frisson. Le bonhomme n'était pas très brave, la nuit surtout, même au clair de lune. « Présent, maître Toinoz, » répondit gaiement le jeune homme qui sauta sur la route. « Ah, très bien. Maintenant, je pense que tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as amené ici à une heure où je devrais dormir dans mon lit. »« Comment donc ? Écoutez, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du revenant aux jambes de bois qui se promène près de la chapelle entre 11h et minuit pendant les nuits de lune ?»« Des bêtises !» répondit le ciseleur en tournant anxieusement la tête dans la direction de la Madeleine. « Assez là-dessus. Il n'est pas convenable de causer de ces choses-là à l'heure qu'il est. D'ailleurs, quel rapport ça peut-il avoir avec son trésor ? Ça en a plus que vous ne croyez. On raconte donc que, si on suit l'homme aux jambes de bois, il vous conduit tout droit à un trésor caché au fond du lac. Seulement, il faut emplir ses poches avant le dernier coup de minuit, sans quoi on ne rapporte que des cailloux. Tais-toi, tout ça c'est des menteries. Pour ce qui est du revenant, je n'affirme rien, mais quant au trésor, c'est différent. Il y avait une fois, dans les temps, un général qui voyageait par ici avec sa vaisselle portée à dos de mulet. Près de la Madeleine, les mulets ont roulé dans le lac et l'argenterie y est encore. Ce n'est pas des menteries, ça, c'est écrit dans les livres, et d'ailleurs, j'ai vu et touché la vaisselle d'argent. Tu l'as vu, Jacques, mon ami, tu l'as touché ? S'exclama le ciseleur, dont les yeux étincelaient. Oui, Pierre Toinos, comme je vous vois, le trésor est là, dans le lac, juste au-dessous de ma barque. J'y ai plongé et j'ai vu briller dans l'eau des piles de plats et des soupières et des écuelles comme celles que vous fabriquez, mais tout ça en argent massif et pesant lourd. C'était plus fourni que la devanture d'un orfèvre et j'en suis resté estomaqué pendant 8 jours. « Tu n'as conté la chose à personne ?» murmura Toinos, très allumé, en lui empoignant le bras. « À personne qu'à vous !» « À la bonne heure. Maintenant, tu vas me montrer que tu ne te gausses pas de moi. »« Oui, et ce ne sera pas long, » répartit Jacques. En un clin d'œil, il mit bas sa veste, sa chemise et son pantalon. Son corps nu, svelte et musclé, luisait au clair de lune. Il se tint un moment debout sur la barque, tandis que Toinos, haletant, s'approchait du bord. « Oup, ça y est !» dit gaiement Sonnera. Et plouf, d'un bond, il plongea dans le lac. Le ciseleur restait tout pantelant sur les pierres du talus. Une double émotion l'agitait. D'abord, une poignante curiosité, puis une certaine appréhension de se trouver seul, la nuit, près de cette vieille chapelle hantée, occupée à une besogne mystérieuse et qui tenait un peu du sortilège. Il avait beau faire l'esprit fort, toutes les superstitions de son enfance lui revenaient en mémoire. Et si, tout à coup, il eût entendu résonner sur la route le piétinement diabolique des jambes de bois, il se fût évanoui de peur. Le cri des grillons lui tintait aux oreilles, un hurlement de chouette dans le ravin d'Angon le fit frissonner de la tête aux pieds. Les profils nettement découpés des montagnes dansaient devant ses yeux. Il commençait à trouver le temps horriblement long, quand la surface du lac se rida, des cercles se formèrent, et dans un éparpillement de gouttelettes diamantées, brusquement, Jacques Sonnera émergea de l'eau, sauta dans la barque et, s'ébrouant, « Tenez, Père Toinos !» cria-t-il au bonhomme, en lui jetant un singulier objet qui rendit un son argentin sur les pierres du talus. « Que dites-vous de ça ?» Toinos ne répondit pas. Le saisissement lui coupait la respiration. Il avait ramassé et soupesé un plat oblong et lourd, dont le métal s'était bossué et noirci, probablement à la suite d'un long séjour dans le sable humide. Machinalement, il prit un caillou pointu et en écorcha le plat, dont les rayures scintillèrent au clair de lune. « C'est du vieil argent » bégaya-t-il enfin. « Je m'y connais. Et tu crois, Jacques, qu'il y en a beaucoup de pareils au fond du lac ?»« Toute une batterie de cuisine, Père Toinos. Ça grouille, je n'ai eu qu'à prendre dans le tas. » affirma Jacques en s'essuyant le dos et les jambes avec son mouchoir. « Retourne-y, mon brave, hardi. Encore un plongeon et rapporte ce que tu pourras, » chuchota Toinos, l'œil flambant. « Nenni, assez pour cette nuit, » riposta l'autre en se rhabillant. « La lune a tourné, la place est maintenant dans l'ombre et je n'y verrai goutte. Vous avez demandé une preuve, je vous la donne. À votre tour de me bailler une bonne parole. » « Philo sera-t-elle ma femme ?»« Tout de même, » répondit le ciseleur à moitié convaincu, « si tu me pêchais beaucoup d'assiettes comme celle-ci, ce serait une jolie dot et je ne dirais pas non. »« Vous me jurez que nous irons avant un mois à la mairie et à l'église ?»« Soit, avant un mois, si tu me promets de m'apporter le restant de la vaisselle. »« Top !» s'écria Jacques en lui tapant dans la main. « En attendant, prenez comme gage le plat d'argent. » Dès demain, nous nous occuperons des publications et dans 3 semaines, vers la Saint-Jean, quand de nouveau la lune sera pleine, nous reviendrons ici avec une charrette et nous ramasserons tout le butin. D'ici là, n'en ouvrez la bouche à personne, même à Filot. Je serai muet comme un poisson, répliqua le ciseleur en frottant le plat contre sa manche. Et maintenant, Jacques, tu serais bien gentil de m'accompagner jusqu'à Angon. Ça te réchaufferait. Ah ah, dit le camarade en riant, vous avez peur que les jambes de bois ne vous courent après pour vous reprendre le plat? À votre service, Pierre Toineau, à condition que vous me paierez une bouteille de votre vin blanc. Ça me réchauffera encore mieux. Quand Jacques sonnera, après avoir remisé Toineau chez lui et vidé la bouteille, en trinquant à Philomène, reprit tout seul le chemin de Talloire, la lune le vit tout à coup, esquisser un pas de danse sur le gazon. Puis il se mit à siffler si gaiement et si fort que l'écho de la Madeleine lui renvoya son sifflement et que, dans les bois du vivier, les merles s'éveillèrent en sursaut, croyant le jour déjà levé. Chapitre 3. Philomène, qui n'était pas dans le secret, n'en revenait pas du revirement qui s'était opéré dans les idées de son père. Non seulement Toineau donnait son consentement au mariage, mais il en pressait activement la conclusion. La trouvaille du plat d'argent lui avait mis l'eau à la bouche. Dans ses rêves, il entendait le tintement clair de la vaisselle plate du connétable, il voyait déjà les pièces d'orfèvrerie empilées dans son coffre, jetées de blancs éclats métalliques à travers l'obscurité du cellier. Aussi, maintenant que le repêchage de l'argenterie était subordonné à la célébration des noces de Philomène, il lui tardait d'arriver au jour du mariage. Ce fut lui qui se chargea de toutes les démarches préalables à la publication des bans, et 3 semaines, jour pour jour, après la mémorable nuit du plongeon de Jacques, un joyeux cortège de gens endimanchés s'égrena sous les noyers de la route d'Angon à Talloire, précédé d'un garçon qui jouait de l'accordéon, l'instrument préféré des montagnards de la Savoie. En tête marchait Toineau, rasé de frais et engoncé dans sa redingote des jours de fête. Il donnait le bras à Philomène, toute blanche et rose en ses atours de mariée. Jacques Sonnerat, la moustache au vent, le sourire aux lèvres, conduisait la mère Toineau. Quand la noce défila devant la Madeleine, le ciseleur se retourna vers son futur gendre et eut un mystérieux clignement d'yeux auquel le garçon répondit par un sourire silencieux et plein de promesses. Jacques nous avait invités à la cérémonie et nous assistâmes à la bénédiction nuptiale dans l'église bourrée de curieux. Ce fut l'oncle de Rovani qui officia, paré de sa plus belle chasuble. Avant d'unir les deux jeunes gens, le brave curé leur adressa un discours joliment tourné où il leur disait, entre autres choses, que l'argent ne fait pas le bonheur et que la tendresse mutuelle des deux époux vaut mieux que tous les trésors de la terre. En prononçant ces paroles avec onction, le vieux prêtre, dont la ronde figure épanouie était dorée par un rayon de soleil tombant de l'abside, avait une fine expression doucement sardonique qui me frappa. Jacques écoutait dévotement son oncle et approuvait par des hochements de menton, tandis que le ciseleur, plissant dédaigneusement les lèvres, regardait sournoisement du côté du portail grand ouvert, par la baie duquel on apercevait, dans un coup de soleil, le lac bleu, les montagnes vertes et, au bout de la route fuyante, les murs ruinés de la Madeleine, s'enlevant en clair sur les vignobles d'Angon. Je ne vous raconterai pas les festivités, danses et grasses lipées qui suivirent le retour au village. Cela dura jusqu'au soir. Puis la nuit descendit à pas de velours sur les noyers, enveloppant dans son ombre violette le bonheur des jeunes mariés. Le lendemain, la journée parut interminable au père Toineau. Il allait et venait par l'atelier, consultant à chaque instant l'horloge qui battait les secondes dans une encoignure. Au rebours de Josué, il aurait voulu précipiter la course du soleil vers les sommités vaporeuses des montagnes d'Annecy. Enfin, l'heure du souper sonna, et tandis que la mère Toineau allumait la lampe, le ciseleur tira son gendre à l'écart. « C'est aujourd'hui la Saint-Jean, murmura-t-il, et il fera pleine lune cette nuit, mon camarade. J'ai tenu ma promesse, maintenant c'est à toi de t'exécuter. » Parfaitement, père Toinose, répondit Jacques d'un air délibéré. Je suis à vos ordres. Préparez votre charrette et laissons tranquillement la mère se coucher. Quand tout le village dormira, vers les 11 heures, nous partirons pour la Madeleine et nous emmènerons Philo avec nous. Elle est maintenant au courant de l'histoire et elle nous aidera. Ce fut avec une sourde jubilation que Toinose entendit au loin, à travers la bleuâtre illumination de la lune, 11 heures teintées au clocher de Talloire. Il poussa vivement hors du cellier la charrette dont il avait soigneusement emmitouflé les roues de chiffon, afin que personne ne les entendît rouler. Jacques prit le bras de Philo et tous trois se glissèrent avec des mines de contrebandiers sur la route de la Madeleine. Jacques, très occupé de sa jeune femme, ne se pressait nullement. Quant au bonhomme Toinose, impatient d'arriver, il filait devant avec sa charrette, puis tout à coup, s'apercevant de son isolement et ressaisi de ses terreurs superstitieuses, il rebroussait chemin pour gourmander les traînards. Ceux-ci faisaient la sourde oreille, n'étant point fâchés de savourer leur tête-à-tête. « Sarpejeux, bougonnait Toinose, vous allez comme des limaçons. Vous aurez bien le temps de causer quand vous serez rentrés. » « Minute, beau-père, ripostait Jacques, la foire n'est pas sur le pont et la vaisselle ne délogera pas sans notre permission. » Ils mirent ainsi une bonne demi-heure à atteindre l'ancienne chapelle dont l'intérieur, traversé par un rayon de lune, était inondé de blancheurs étranges. Le père Toinose, haletant d'émotion, s'était assis sur les brancards de la charrette. Sonnera, lui, plus calme et nonchalant que jamais, continuait à musarder et semblait prendre plaisir à irriter l'impatience de son beau-père. Il dissertait sur la récolte qui promettait d'être magnifique, regardait le ciel constellé, les profils des montagnes et prédisait du beau temps pour le lendemain. « Jacques, grommelait Toinose, dépêche un peu, tu me fais bouillir, mon camarade. »« Voilà, voilà, beau-père, ricanait-il en se hâtant lentement. » À la fin, il se déchaussa, ôta son pantalon et, comme il enlevait sa chemise, minuit sonna. Il n'y prit point garde et descendit en se dandinant dans son bateau. « Attention !» s'écria-t-il. « Une, deux, trois !» Et il plongea. Assis maintenant parmi les mantes du talus, le père Toinose frissonnait d'impatience, tandis que Philomène, peu rassurée, joignait les mains. Tous deux avaient les yeux fixés sur les cercles concentriques qui s'élargissaient à la surface de l'eau. Les grillons chantaient dans les vignes et leur mélopée faisait paraître le silence de la nuit plus solennel. Philo aperçut la première, les légers globules d'air qui annonçaient la remontée du plongeur. Puis, dans un bouillonnement et un rejaillissement d'eau, Jacques reparut, les mains vides. « Comment ? » s'exclama le ciseleur stupéfait. « Tu ne rapportes rien ?»« Rien, père Toinose, » répondit Jacques, en se secouant comme un chien mouillé. « Coquin de sort, la vaisselle a disparu. » « Disparu ? » balbutia le bonhomme. « Impossible ! Tu te seras trompé de place. »« Je ne me suis pas trompé, » répliqua Sonnera. « J'avais marqué l'endroit avec une grosse pierre et je n'ai plus trouvé que des cailloux. Il y a du sortilège là-dessous. »« Laisse-moi tranquille. Quel diable de sortilège veux-tu qu'il y ait ?»« Je l'ignore, » répondit-il flegmatiquement. Puis il ajouta d'un air candide. Est-ce que, par hasard, minuit serait sonné ? Oui, le dernier coup teinté comme tu t'enfonçais dans l'eau. Mais le lac est encore éclairé par la lune. Replonge, mon ami, je t'en prie. Le dernier coup teinté, répéta Jacques sans sourciller. Par ma foi, ça explique tout. Le trésor, vous le savez bien, disparaît dès que minuit a sonné. J'aurais beau plonger maintenant, j'en serai pour mes frais, et la fée du lac a resserré la vaisselle au fin fond de son coffre. En voilà pour jusqu'à la pleine lune prochaine. « Il n'y a pas de fée et tu te fiches de moi !» hurla Toinose exaspérée. « J'aurais dû m'en douter et ne pas me fier à un filou de ton espèce. Tu m'as volé ma fille, brigand ! Rends-la-moi ! Je ferai casser le mariage !» En même temps, il avait empoigné le bras de Philomène et la tiré vers le milieu de la route. Mais la jeune femme se dégagea vivement de l'étreinte paternelle. « Non, papa, » dit-elle d'un ton décidé. J'aime Jacques, vous me l'avez donné, je suis sa femme et je reste avec lui. » « Merci, Philo, cria Jacques en l'embrassant. « Tu es la crème des femmes. Et maintenant, père Toinose, venez me la prendre. » « Ah, mauvaise fille, tu renies ton père !» géniait le ciseleur. « Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre et vous vous êtes entendu comme larron en foire pour me dépouiller et me vexer. » « Mais non, père Toinose, ripostait Jacques en riant. « Personne ne veut vous vexer. » Soyez donc raisonnable et souvenez-vous de ce que prêchait hier mon oncle le curé. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez-vous-en au diable, toi et ton oncle, murmurait Toinon en poussant sa charrette vide. Je vous renie à mon tour et il n'y a plus rien de commun entre nous. Vous avez tort, beau-père. Nous ne demandons qu'à vous satisfaire et à vous aider à exploiter le minerai. Ce n'est pas le minerai, c'est moi que tu veux exploiter, vaurien. Ainsi, se chamaillant, ils regagnèrent Angon, où ils s'enfermèrent chacun dans leur chambre, sans avoir fait la paix. Pourtant, deux jours après, quand je vins au village, pour chercher le plateau et la buire que le ciseleur venait de terminer, le bonhomme commençait à s'amadouer. Il avait réfléchi qu'en se brouillant avec son gendre, il se séparerait forcément de sa fille, et que la maison serait du coup bien maussade et bien vide. Et puis, tout en frottant son plat d'argent avec un vieux chiffon de laine, il conservait au fond du cœur un peu d'espoir. Malgré tout, il croyait encore au trésor enfoui au fond du lac et il se disait que si la séparation avait lieu, Jacques Sonnerat était capable de le repêcher pour lui tout seul. Ce fut Jacques qui, le lendemain, se chargea de nous voiturer à Annecy. Et comme le bruit de la trouvaille du plat était venu jusqu'à nous, je profitai de l'occasion pour tirer la chose au clair. « Voyons, Jacques, lui demandai-je, est-ce vrai que vous avez repêché une pièce d'argenterie dans le lac, près de la Madeleine ?» Le sourire familier du cocher s'accentua sur ses lèvres narquoises. « Je vas vous dire, monsieur, répliqua-t-il en clignant de l'œil. J'étais très amoureux de Philo, et je savais le père Toinose plus entêté que les mulets de votre monsieur d'Edguerre. Quand je vous ai entendu raconter la dégringolade de ces animaux avec leur charge d'argenterie, ça m'a fait pousser dans la tête une riche idée. Je me suis souvenu que mon oncle, le curé de Ravani, possédait justement un plat d'argent qui lui avait été donné par la comtesse de Menton. Ma foi, je n'ai fait ni une ni deux, j'ai été trouver le brave homme, je lui ai conté mon embarras et je l'ai si bien endoctriné qu'il m'a laissé emporter sa vieille relique. Ça a été dur tout de même. Quand j'ai une fois tenu dans mes mains la pièce d'argenterie, je l'ai bossuée à coups de marteau, je l'ai noircie à la fumée et j'ai été la mettre au frais dans le lac, au raid de la Madeleine. Je savais que le père Toinose, à force de manier des métaux, ne rêvait plus que mine d'or et d'argent. Je lui ai conté l'aventure des mulets. Ça lui a mis le feu sous le ventre à cet homme, et quand je l'ai vu bien allumé, je l'ai mené au bord du lac, j'ai plongé et je lui ai rapporté mon plat en lui disant qu'il y en avait une centaine de pareils au fond de l'eau, et il m'a baillé Philomène dans l'espérance d'avoir le reste de la vaisselle. Voilà comment le tour a été joué, grâce à vous, messieurs, et je vous en remercie de tout mon cœur. Il n'y a pas de quoi, Jacques. Et, en plongeant dans le lac, vous n'avez pas trouvé trace de l'argenterie de M. de Lesdiguières ? Il éclata de rire. Je n'y ai trouvé que du sable et des gravats. Si l'argenterie est là-dessous, il y a apparence qu'elle y restera jusqu'à la consommation des siècles, comme dit mon oncle. Mais j'en ai tout de même rapporté un trésor, c'est Philo. Je vous assure qu'elle vaut son pesant d'or et d'argent. Et, ajouta-t-il, en passant le fin bout de sa langue sur ses lèvres gouailleuses, c'est un trésor qui aura des petits.